Un grand bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la restauration de l'église de Notre-Dame des Victoires. En effet, le 17 mai 1871, c'est les fédérés du 159 régiment entrés dans l'église et le sanctuaire vécut durant 3 jours un pillage pratiqué avec une férocité inouïe. La pelle et la pioche à la main, les fédérés avaient ouvert le caveau où se trouvait le trésor de l'église. Alors le trésor de l'église, le curé de l'époque avait cru bon de le mettre dans ce qui est maintenant la chapelle Notre-Dame des Douleurs. Il y avait le caveau de la famille du musicien Lully. Voilà. Alors, sans compter les couronnes en or offertes par le pape Pie IX, 2 couronnes ornées d'améthyste données par la marquise de Wellesley, vice-reine d'Irlande, et 2 autres couronnes en or massif, des bijoux, etc., etc. Et aux fédérés se joignirent des femmes, appelées les ravageuses, qui dirigeaient les perquisitions. Elles indiquaient aux bons travailleurs les endroits qu'il fallait visiter et les encourager à la destruction la plus complète. « Il faut, disait-elle, faire disparaître les lampes et les lustres et ne laisser que des murs absolument nus. » L'une d'elles ordonna que tout ce qui rappelait la religion disparût, sauf la chair, évidemment, qui était nécessaire pour ces messieurs orateurs du club, et le banc d'œuvre qui est ici pour le bureau. D'après le procès-verbal de constatation du pillage de Notre-Dame des Victoires signé le 26 mai 1871 par M. Delacroix, sous-directeur de l'archiconfrérie, M. de Mandebonc, président du bureau des Marguilliers, et M. Gérardin, maître des cérémonies, l'église et ses dépendances présentaient l'aspect le plus douloureux de la désolation et les plus tristes marques du séjour qui avaient fait les spoliateurs, ainsi que leur sauvage dévastation. Le chœur, la chapelle de la Sainte Vierge, toutes les chapelles, la nef, les troncs, la sacristie, tout avait été volé, dévasté ou détruit. Le sanctuaire était dans un état épouvantable. Plus un seul objet du culte, nulle part, plus le moindre ornement, lampe, chandelier, chœur, croix d'honneur, tout avait disparu. Les autels et les confessionnaux étaient renversés, les tabernacles et les reliquaires brisés gisaient à terre, pêle-mêle. Les pierres descellées des caveaux montraient leurs ouvertures béantes. De tous côtés, de larges dalles arrachées du sol indiquaient la place des fouilles qu'on avait pratiquées dans l'espérance, bien entendu, de trouver un trésor. Quant à la chapelle de la Vierge, ce n'était plus qu'un amas de décombres au milieu desquels on apercevait une espèce de gouffre. 3 choses cependant furent préservées. L'église en elle-même, la statue de Notre-Dame des Victoires et les titres de l'archiconfrérie. L'église, elle, échappa à la destruction. En effet, des tonneaux de pétrole avaient été amenés dans la cour de la mairie et un vaste incendie devait la consumer et avec elle, la mairie qui jouxte la basilique, l'établissement du timbre, la bourse, la Banque de France et plusieurs autres édifices. Donc la statue de Notre-Dame des Victoires, je pense que certains d'entre vous le savent, fut sauvée de justesse par M. Liebmann, juif converti au catholicisme, qui s'interposa en manifestant son dégoût. On voulut le faire prisonnier, mais il répondit « À votre aise, je vous prierai de respecter la statue de la Vierge. Elle m'a été cédée ce matin même par le citoyen Fontaine, directeur du domaine. » Un coup de bluff, mais qui a bien marché. En ce qui concerne le registre de l'archiconfrérie, les craintes étaient que ceci soit perdu sans retour, mais il n'en fut rien. Avant l'envahissement, il y avait 160 volumes de lettres d'affiliation et ils furent recueillis ça et là dans l'église. Qui allait réparer les désastres et la spoliation dont le sanctuaire avait été victime? Le successeur de l'abbé Desgenettes, le père Chanal, sentit que l'entreprise était au-dessus de ses forces. Il en tomba malade et donna sa démission. Donc cette œuvre de restauration incombait au père Chevaujon qui succédait donc au père Chanal. Dès le commencement du mois d'août, soit un mois et demi après son installation, il fit un appel aux membres de l'archiconfrérie. « Laissez-moi, écrivait-il, vous confier une tristesse et faire pour la première fois un appel de votre pieuse générosité. Dans cette église bénie de Notre-Dame des Victoires, les profanateurs ont laissé de leur passage des traces qu'il nous faut voir chaque jour et que nous ne pouvons, hélas, faire disparaître faute de ressources. Les magnifiques couronnes données par Pie IX ont été emportées. La châsse de Sainte-Aurélie est détruite. Le devant de l'autel où elle reposait n'a plus pour parure qu'un drap blanc. La pierre qui recouvre les restes du vénérable fondateur de l'archiconfrérie est mutilée. » Alors, le cercueil de l'abbé Desgenettes n'est pas sous la dalle qui est là, qu'on appelle pierre tumulaire. Le cercueil, il est sous les marches, qu'on appelle banc de communion. Voilà. Donc, sur cette pierre tumulaire, tout avait été brisé et on ne pouvait plus lire les caractères qui rappelaient sa vie et ses vertus. Les chiffres de Marie, vrai reliquaire, vrai trésor chargé de croix d'honneur, qui brillait aux deux côtés de la chapelle, n'existaient plus. La légende qui se déroule le long de l'église, composée de cœurs, c'est ici tout le long, ça part du fond du cœur, ce sont les litanies de Lorette. Donc, cette corniche est ornée de cœurs qui composent les mots de la litanie de Lorette. Ces cœurs avaient été donnés par des pèlerins. Alors, elle n'est pas complètement détruite, mais elle était coupée par certains endroits. Et quand on regarde les murs de tous les côtés, ce sont des restes ou des débris qui attristent le regard en nous rappelant ne pouvoir l'oublier, le souvenir des plus odieux sacrilèges. Pour réparer de tels désastres, chers associés, il nous faut votre concours. Vous qui aimez Notre-Dame des Victoires, refuserez-vous de nous venir en aide dans une si douloureuse circonstance? Non, j'en ai la conviction. Donc l'appel du père Chevaujon fut entendu. De nombreuses lettres arrivèrent à Notre-Dame des Victoires portant des offrandes. Et ces offrandes venaient non seulement de France, mais de nombreux pays, du monde entier, des personnes de toutes conditions, laïcs, prêtres, religieux, évêques. Un mois après son appel, le père remercia chaleureusement les donateurs. Au mois de janvier 1873, il lança une troisième invitation. Laissez-moi maintenant encore faire un nouvel appel à votre pieuse générosité. Nous travaillons depuis des mois à la réparation des dévastations sacrilèges commises dans notre chère église de Notre-Dame des Victoires. Bien des choses déjà ont été faites, mais les ressources nous font défaut et nous recourons encore à vous. Vous n'ignorez pas du reste que nous prions particulièrement pour tous les donateurs, tous les jours à la Sainte Messe et à tous les exercices de l'archiconfrérie. Effectivement, chaque dimanche, l'œuvre de réparation était soutenue par la prière. On priait pour la réparation des désastres, mais aussi pour la conversion des pécheurs. À la fin de l'année 1872, un soir, une personne fit remettre à monsieur le curé un petit paquet soigneusement enveloppé et disparut sans se faire connaître. qu'elle ne fut pas la surprise et la joie de celui-ci en reconnaissant le petit tombeau renfermant les reliques déposées dans le grand autel au jour de la consécration. Ce petit tombeau contenait, avec les reliques parfaitement conservées, les grains d'encens prescrits par la liturgie et la feuille de parchemin authentique de la consécration signée de la main de Mgr Darbois, alors archevêque de Paris. Quelques jours après, une autre main inconnue rapportait plusieurs cœurs. Les fidèles revirent avec bonheur les lettres initiales du nom de Marie, disparues au mauvais jour, composées par tous ces cœurs apportés par reconnaissance envers la Sainte Vierge. Mais on n'avait pu retrouver au garde-meuble qu'une très petite quantité d'objets volés. Cependant, des restitutions fréquentes avaient lieu. Un jour, un paroissien remit des croix d'honneur avec un nombre considérable de cœurs et d'objets divers tenus cachés depuis les événements. À ces restitutions s'ajoutaient les offrandes de toute nature. Le sanctuaire reçut également la crosse, l'aiguillère et le bougeoir qui servaient à Mgr Surat, martyr de la commune, dans les offices pontificaux. Sur la crosse fut portée l'inscription « Souvenir de Mgr Surat », offert à l'archiconfrérie par Mgr Lagarde, vicaire général de Paris, son exécuteur testamentaire. Un calice en vermeil enrichi des mots fut offert par une associée. Et le premier vendredi de Carême, un nouveau chemin de croix, fait en émaux et encadré de bronze doré, destiné à remplacer l'ancien qui avait été mutilé, fut installé. Les stations de chemin de croix, elles sont là, deux par deux, sur chaque pilier de la nef. Pendant ce même mois de mars, on put réaliser deux vœux formés. Le premier durant le siège de Paris, le second par les otages à la fin de la Commune. Les ex-voto furent placés aux fenêtres, simulés des tribunes à droite et à gauche de l'autel de la Sainte Vierge. Si vous vous approchez, il faut quand même lever les yeux, mais on les voit, ces ex-voto. Ce sont deux trophées en bronze repoussés au marteau et dorés. L'idée de celui de droite est ainsi formulée : le siège de Paris par les Germains, la résistance par les armes jusqu'à la capitulation. Et à la tribune de gauche, le sujet est la guerre civile de Paris ou la Commune, octobre 1870, janvier 1871. Voilà, ces deux ex-voto complètent la décoration des tribunes placé dans le transept de l'église, parce qu'il y en a encore deux autres, de chaque côté de l'autel de Saint-Augustin. Et il y a plus de 800 cœurs ou autres objets offerts par la piété des fidèles. Alors, on approche, dans cette mamée-là, on approchait du mois de mai, c'est-à-dire du mois de Marie, et là, les travaux vont s'intensifier. En une nuit, la chapelle de la Sainte Vierge fut transformée. Le 4 mai, troisième dimanche après Pâques, jour de la fête de Sainte Aurélie, il y eut une cérémonie imposante. Les reliques de la Sainte avaient été odieusement profanées et on retrouva au milieu des plâtras et de décombres un morceau de cire du bras. Oui, parce que en fait, c'était pas le corps, évidemment, parce que c'était une martyre du premier temps des chrétiens. Donc les restes venaient de Rome, donc le corps n'était pas intact, il ne restait que des ossements, mais les ossements avaient été habillés par un corps de cire, voilà. Donc on avait trouvé un morceau de cire du bras, et dans ce morceau, on avait trouvé un ossement qui était encore enchâssé, puis quelques fragments de marbre, la petite fiole de cuivre doré contenant le vase de sang que les premiers chrétiens avaient placé près de la tombe de la jeune martyre. Puis, dans la sacristie, on trouva dans une partie du Corpo Santo tous les ossements de la Sainte rangés dans un ordre parfait et portant encore le sceau du secrétariat des reliques de Rome telles que le pape Grégoire XVI les avait envoyées en 1842. Donc, par les soins du père Chevaujon, une grande et magnifique châsse de cuivre reçut les reliques qui reposent sur des coussins de velours, donc en dessous de l'autel. Les reliques sont là. La nouvelle châsse fut inaugurée solennellement et exposée au milieu d'un brillant luminaire dans le cœur de l'église. Deux jours après, la nouvelle châsse fut placée comme l'ancienne sous l'autel de la Sainte Vierge. L'œuvre de réparation s'avançait. À l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, célébrée en 1873 avec une pompe inusitée et préparée par une nouvelle solennelle, on lui inaugurait une chapelle dédiée au Sacré-Cœur. Elle est là-bas, à côté de la chapelle de Sainte-Anne. Alors, cette nouvelle chapelle était plus riche et plus décorée que l'ancienne, parce qu'il y avait eu des jeux comme ça de croiser la chapelle du Sacré-Cœur. Avant, du temps du Père Desgenettes, elle était par là. Enfin bon, il y a eu comme ça des chassés croisés. Alors, il y avait aussi la tombe du Père Desgenettes, dont la restauration tenait à cœur au Père Chevaujon. Alors, celle-ci, donc, avait été dévastée lors du pillage de l'église en mai 1871. Le cercueil avait été ouvert, le corps enlevé de la bière et la tête du père Desgenettes promenée au bout d'une pique. Le corps fut remis dans un nouveau cercueil, mais la pierre tumulaire située au pied n'existait plus qu'en fragments. Celle-ci fut restaurée en 1873 grâce à une liste de souscriptions et tout fut terminé pendant la première quinzaine de juillet 1873. Le dimanche 20 juillet, M. le curé annonça que le lendemain, un service solennel serait célébré pour l'abbé Desgenettes à l'occasion du nouveau marbre qui recouvrait sa tombe et qui est situé donc sous la table de communion. Il invita les associés à prier pour les malheureux qui avaient vandalisé la sépulture. Les travaux de l'abbé Chevaujon ne s'arrêtèrent pas là. La décoration de sa chère église fut une des grandes œuvres de son ministère. Grâce à lui, toutes les traces du vandalisme de 1871 disparurent du sanctuaire, mais une splendeur supplémentaire lui fut donnée. Les sous-sols reçurent des améliorations qui en ont doublé l'importance. Dans le chœur, des vitraux remplacèrent les fenêtres anciennes. Alors ces vitraux racontent les grands mystères de la vie de la Sainte Vierge. Le long de la nef et du chœur fut mis en place tout un système luminaire. Les innombrables ex-voto qui couvrent les murs et les piliers furent disposés de telle façon qu'ils présentent l'aspect d'un magnifique revêtement de marbre. Les chapelles furent entièrement refaites depuis le rétablissement de l'autel jusqu'aux grilles d'acier fondu qui les entourent. L'autel majeur fut réédifié et consacré par Mgr Maignan le 9 juillet 1879. Les couronnes de la Vierge et de l'Enfant Jésus, volées en 1871, furent remplacées en 1876 grâce à de nouveaux dons. Un ostensoir utilisé pour les fêtes du Saint-Sacrement fut confectionné avec les bijoux offerts à Notre-Dame des Victoires. Et pour avoir consulté les registres des ex-voto, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux qui ont été offerts au sanctuaire. Alors, les vitrines qui décorent les murailles et présentent de nombreux ex-voto ont été remises. Ce sont essentiellement des médailles militaires. L'abbé Chevaujon a admirablement illustré les propos de Saint Jérôme au sujet du prêtre népotien. Il avait soin que l'autel fût toujours d'une propreté convenable, que les murailles de l'église fussent nettes, que le pavé fût bien nettoyé, que le portier se tînt souvent à la porte pour n'y admettre que ceux qui devaient y avoir entré, et que toutes les cérémonies s'observassent avec toute l'exactitude possible. Il était presque sans cesse dans le temple et ornait la basilique des martyrs avec des fleurs et des branches d'arbres. Il voulait qu'il n'y parût rien qui pût offenser les yeux des fidèles, mais que tout y portât à la piété et à l'adoration de sa majesté divine. Honorer les saints et les martyrs, n'est-ce donc pas aussi semer sur la terre des germes de sainteté, réveiller la foi, inspirer au courage, chrétien de généreux élan, raviver au cœur des fidèles le feu de la divine charité. Enfin, la gloire des saints sur la terre n'est-elle pas la gloire de l'Église, la gloire de Dieu même? Et que dire du culte de Marie? Monsieur Chevaujon pensa que rien ne serait assez beau, assez magnifique pour honorer l'autel de la Sainte Vierge. Alors, je vais finir parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, ce n'est plus de la restauration de Degas, mais à l'aube de l'année 1900, alors le curé de l'époque, ce n'était plus le père Chevaujon, c'était le père Rateau. Il venait juste de succéder à l'abbé Chevaujon et il entreprit des travaux de réfection dans l'église. Alors, tout d'abord, ils avaient commencé par le portail, dont la restauration incombait à la mairie de Paris. Et à l'époque, déjà, la mairie de Paris était très lente pour exécuter les travaux. Je pense que ça n'a pas changé. Voilà. Alors, le curé, il était un peu impatient parce qu'il en avait marre de voir des échafaudages sur la façade de l'église. Mais cela s'est fait tout de même. La tribune fut reconstruite. Elle était trop étroite et n'était pas en rapport ni avec le style de l'église, ni avec celui du buffet des grandes orgues. Une nouvelle tribune fut construite avec un encorbellement orné de sculptures fines. Un nettoyage complet de l'église fut entrepris. Avec le temps, la fumée des cierges qui brûlent sans cesse autour de l'autel de la Vierge avait fini par enduire d'une suie épaisse les murs et les ornementations de l'édifice. Malgré les difficultés, le travail fut exécuté avec rapidité, cette fois-ci, sans que les cérémonies habituelles fussent interrompues. Toutes les chapelles furent restaurées et leur ornementation renouvelée. La statue de Notre-Dame des Victoires fut blanchie, le retable, le couronnement de l'autel, les tableaux qui l'entourent, les lampadaires qui l'ornent, les ex-voto qui la décorent furent nettoyés, repeints ou redorés. Des ventilateurs furent installés au-dessus de la chapelle de la Vierge. Des lampes électriques remplacèrent les becs de gaz, des lampadaires, et le dallage de la nef principale fut renouvelé et tous les vitraux furent nettoyés et restaurés. Voilà. Ça s'est passé en 1900. Alors, sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucun travaux d'envergure fait depuis. Donc, cela fait 124 ans. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon après-midi. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Le mois d'août, il n'y aura pas de chronique, je ne serai pas là. Mais avec plaisir et avec joie, je vous retrouverai au mois de septembre. Merci.